Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
C'est une nouvelle qui fait un peu tâche, même si elle est encore à prendre au conditionnel. Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung a annoncé ce matin que les services de renseignement allemands auraient aidé la NSA à faire de l'espionnage politique. Toujours selon le journal allemand, les écoutes auraient visé des hauts fonctionnaires du ministère français des Affaires étrangères, du Palais de l'Élysée et de la Commission européenne. Thomas de Maizière, le ministre allemand de l'Intérieur, devra s'expliquer la semaine prochaine devant une commission d'enquête parlementaire allemande. L'ironie dans cette histoire, c'est qu'il y a 2 ans, Angela Merkel s'était offusquée d'apprendre que sa ligne 06 avait été mise sur écoute par la même NSA. Avant de crier au scandale, la France ferait peut-être donc bien d'attendre quelques années, histoire de voir si la nouvelle loi sur le renseignement ne donnera pas lieu à quelques bourdes de ce genre. Le projet de loi sur le renseignement que nous allons décrypter dans un instant.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, vous entendrez Eugénie Alcézar du groupe parisien Parlor Snakes qui sera en concert demain soir au Joker's Pub. Ce sera juste après la chronique Lance Torpille de Yann, toujours pas très content. En fin d'émission, Quentin le Moussaillon nous parlera de don du sang. Mais d'abord, le projet de loi sur le renseignement a été examiné en procédure accélérée depuis le 13 avril dernier. Il sera soumis au vote de l'Assemblée nationale mardi prochain. On nous en parle beaucoup, il suscite énormément de réactions. Manuel Valls a même reçu mardi une pétition signée de 119 000 Français lui demandant le retrait du projet de loi. Mais voilà, il est compliqué ce projet de loi, il n'est pas du tout sexy et c'est un peu reculant qu'on a mis le nez dedans. Mais puisque l'argument liberticide est brandi par ses détracteurs, allez hop, on s'y est mis.
Comme vous le savez, on vous a mis sur écoute. On ne sait jamais si elle téléphonait.
Eh oui. Dites, qu'est-ce qui raque, c'est moi là ?
Excusez-moi, je peux ?
Oui, vous gênez pas.
Merci.
C'est là pour ça.
On va vous laisser un homme ici qui se chargera du téléphone, jusqu'à ce qu'on les retrouve.
L'important, c'est de faire celui qui ne sait rien. On veut essayer de repérer où elles sont. C'est pas votre intimité qui m'intéresse.
Et hop, un petit extrait de Thelma et Louise. Bonsoir Ambroise Terrier.
Bonsoir.
Vous êtes contributeur régulier pour la quadrature du net, ce qu'on appelle un neurone pour la quadrature du net, c'est bien ça ?
C'est cela même.
D'abord, on peut peut-être préciser que la dernière grande loi sur le renseignement datait de 91, au temps des Minitel ou presque. Alors elle avait été mise à jour il y a 2 ans pour inclure les données de connexion et de géolocalisation, mais elle était quand même un peu vieillotte cette loi, non ?
Cette loi n'était pas tout à fait d'actualité, mais là, il y a une remise au goût du jour de cette loi renseignement. Nous avons eu récemment la loi de programmation militaire en novembre 2014, qui a elle aussi remis à jour les lois de renseignement, mais pour la partie renseignement militaire.
Ça fait un an que le gouvernement travaille sur ce texte. Les choses se sont un peu accélérées depuis le 7 janvier dernier. Vous admettez qu'il était quand même nécessaire d'avoir un service de renseignement efficace au vu des menaces terroristes ?
Il est toujours nécessaire d'avoir un bon service de renseignement, un service de renseignement efficace contre le terrorisme. Mais il faut que le service de renseignement soit dans des choses bien cadrées et des choses légales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Alors on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer d'éplucher un petit peu ce texte. On entend beaucoup parler des fameux algorithmes qui permettraient d'analyser les comportements des internautes et de détecter les comportements terroristes. Qu'est-ce que c'est que ces algorithmes, Ambroise Terrier ?
Alors un algorithme, pour faire très simple pour tout le monde, c'est par exemple, vous voyez un fruit au marché, vous vous dites soit il est trop cher, je ne l'achète pas, soit il est pas très cher, je vais l'acheter. Un algorithme, c'est... Est-ce que je prends cette information et je la considère comme fiable, ou je la considère comme non fiable, ou non utilisable dans le traitement de ma donnée ? Donc, dans le cadre de la loi de renseignement, c'est, par exemple, vous avez un accès à un site internet. Ce site internet, est-ce que c'est YouTube ou est-ce que c'est le site djihadiste ? C'est ce qui va être vu au niveau de cet algorithme qu'on appelle... communément la boîte noire par rapport à ce projet de loi.
Et ces fameuses boîtes noires, donc, comment est-ce qu'elles vont être installées? On entend dire que ce dispositif concernera tous les fournisseurs d'accès à Internet.
Alors, ce dispositif tel qu'il est actuellement dans le projet de loi doit concerner l'ensemble des fournisseurs d'accès à Internet. Il sera placé au niveau de ce qu'on appelle la tête de sortie du fournisseur d'accès à Internet, c'est-à-dire juste avant d'entrer dans Internet, c'est-à-dire avant de passer dans un transit international. Donc, pour vous, c'est pas au niveau de votre box que la boîte noire va être installée, c'est vraiment au niveau du nœud central de l'opérateur.
Ce qui fait quand même que toutes les boxes pourront être analysées.
Les boxes ne vont pas analyser, il y aura des serveurs qui seront mis au niveau du nœud national, ça sera vraiment pas les boxes. En fait, l'idée, c'est que mettre ça au niveau d'une box, c'est potentiellement savoir ce qu'il y a dans l'algorithme, et c'est ce que le gouvernement ne veut pas.
Qu'est-ce qu'il veut, le gouvernement, exactement?
Le gouvernement, actuellement, ce qu'il veut, c'est que on ne sache pas quel est l'algorithme, pour éviter toute fuite et toute exploitation par les djihadistes. Mais il ne le veut pas non plus pour que personne ne sache réellement ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si demain vous êtes juste un activiste politique ou quelqu'un qui télécharge un film ou quelque chose d'autre, personnellement, personne ne le saura en fait. Le gouvernement pourra le savoir, mais vous ne saurez pas que le gouvernement utilise vos données à ces fins-là en fait.
Et à quel moment est-ce qu'un comportement pourrait être considéré comme suspect au vu des algorithmes ?
Alors actuellement, nous, étant donné qu'on n'a pas l'information, on a quelques idées de ce que ça va être. Ça va être par exemple du flux qu'on appelle du flux chiffré, c'est-à-dire du flux qui est illisible lorsqu'on le regarde en face. Ce flux chiffré, lorsqu'il va être considéré comme suspect, va être enregistré et va être stocké jusqu'à son déchiffrage par les services de renseignement. C'est-à-dire que ça va passer par une plateforme nationale de déchiffrement au sein de la DGSI, la Direction Générale des Services Intérieurs, ou de la DGSE. Et derrière, à partir de là, ils pourront détecter si c'est un comportement djihadiste ou non. Mais il n'y a pas que les comportements de flux chiffrés qui vont être vus. C'est aussi les sites internet du type information sur le djihad, information sur l'autodéfense ou autre.
Et ça concernera uniquement ces comportements terroristes?
C'est censé uniquement concerner ces comportements terroristes, mais nous, notre peur, c'est que petit à petit, ça amène à une surveillance de masse. De toute façon, ça sera de la surveillance de masse. Tout ce qui transitera de votre compte internet sera vu et analysé par ces fameuses boîtes noires.
Pas forcément le contenu, par exemple, de nos mails ou...
Pas forcément le contenu, mais ne serait-ce que le fait d'envoyer un mail d'un serveur à un autre, ça va être analysé, et ils vont voir les adresses utilisées, en fait. Un peu comme si vous notiez, vous envoyez un courrier, c'est comme si la poste notait toutes les adresses à laquelle vous écrivez, et le gardait pendant une durée infinie, en fait.
Et donc ça, c'est gênant.
C'est gênant, c'est de la surveillance de masse, la vie privée est un droit fondamental. Et nous n'avons pas à nous faire espionner de cette manière, même pour des raisons d'antiterrorisme.
Quentin ?
Et est-ce qu'il sera efficace, étant donné que c'est une machine qui analyse un comportement et non pas une véritable personne ?
Alors,
Je ne sais pas si on a bien entendu Quentin.
Est-ce que tu peux augmenter mon micro, s'il te plaît ?
Ou alors peut-être que le micro
a
dit au revoir.
Oui.
Quentin, on t'écoute.
Alors, je répète ma question. Est-ce qu'il sera efficace, cet algorithme, étant donné que c'est une machine qui analyse un comportement et non pas une véritable personne ?
Alors, ce fameux algorithme, de ce qu'on en a eu comme information de la part des plus grands ingénieurs qu'on peut avoir en France concernant les algorithmes, c'est qu'il y aura un taux de au moins 0,5% de faux positifs. C'est-à-dire que demain, n'importe qui est amené à devenir un faux positif.
C'est quoi un faux positif ?
Alors, un faux positif, c'est quelqu'un qui n'est pas un terroriste, mais qui est considéré comme tel et qui va faire l'objet d'une enquête de renseignement.
Autre dispositif qui va être mis en place, à part ces algorithmes, ça porte un joli nom, ça s'appelle IMC Catcher.
Merci. Joli accent.
Merci, Yann. Une sorte de valise antenne qui permet de capter les conversations téléphoniques. Si tant est que la conversation est intéressante, c'est-à-dire qu'ils vont quand même... Les services de renseignement vont quand même cibler les téléphones portables qui
Alors, il ne va pas y avoir réellement de ciblage, en fait. L'idée, c'est d'écouter tout ce qui passe dans une zone plus ou moins large. Donc, en général, c'est 500 mètres, 1 km, ces Easy Catcher. Donc, demain, vous êtes dans la même zone qu'un terroriste. Les services de renseignement vont avoir vos conversations en direct.
Mais cette technique, c'est quand même utilisée à des fins de prévention du terrorisme.
C'est utilisé à des fins de prévention du terrorisme, mais de toute manière, qui ira vérifier réellement ce que font les services de renseignement avec ces boîtes ? Demain, vous le mettez au sein d'une manifestation, ils peuvent écouter n'importe quel de vos appels téléphoniques.
En fait, c'est ça le problème, c'est on n'a aucune garantie concernant l'utilisation de nos données autres que des données pseudo-terroristes. Voilà, si on va trop sur des sites porno ou des choses comme ça, ils peuvent le savoir et ils peuvent le garder à vie.
Truc à se reprocher. Hein.
Voilà, bah oui. Alors, j'achète plus de magazines, moi, madame. L'ère du numérique.
Si on va voir Monsieur YouPorn pour son industrie de du divertissement, oui, ils vont pouvoir le savoir. Mais derrière, les boîtes noires sont censées capter en temps réel et juste envoyer vers les services de renseignement ce qui est vraiment exploitable. Mais rien ne le prouve.
Voilà, il n'y a pas de garantie là-dessus.
Il n'y a aucune garantie.
D'accord.
Il y a une commission qui a été faite pour garantir cela, mais il n'y a aucune garantie derrière que cette commission fasse son boulot et que ça sorte réellement dans la presse derrière.
Ouais, c'est inquiétant quand même.
Après avis d'une commission, les services de renseignement pourront également décider de la pose de micros, de mouchards, où, quand, comment, pourquoi ?
Alors, où, quand, comment, pourquoi, c'est quand un terroriste est avéré, on peut rentrer chez lui et poser des mouchards chez lui, donc pose de micro, pose de caméra. On peut poser la même chose dans des voitures ou n'importe quel véhicule. Donc ça se fera, de ce que j'en ai lu, c'est une équipe de 19 personnes qui s'en occupent au sein de la DGSI. Ils vont simplement forcer forcer les serrures des terroristes, poser les micros et ensuite repartir. Ce que vous pouvez voir dans des séries sur de la pose de micro ou de caméra, ça va être exactement ça. Mais dans ces cas-là, ça sera vraiment que pour les terroristes avérés.
Donc, a priori, si on n'est pas terroriste, on n'a pas de crainte à avoir sur ces poses de micro, de mouchoirs.
Sauf si, par contre, on fait partie des faux positifs et que l'enquête n'a pas réussi à être assez exhaustive pour déterminer si vous étiez ou non un réel terroriste.
On va poursuivre cette discussion sur ce projet de loi sur le renseignement. Ce sera juste après À quoi Serge avec Tout arrive.
Tout arrive.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et on continue notre discussion sur le projet de loi sur le renseignement en compagnie d'Ambroise Terrier, contributeur régulier pour la Quadrature du Net. Dans ce projet de loi, le gouvernement veut mettre en place une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qu'on appellera entre nous CNCTR, qui contrôlera les demandes de surveillance des services de renseignement. C'est quand même un garde-fou.
Alors, c'est un garde-fou. On l'a, la CNCTR telle qu'elle va être, est une remplaçante de la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, mise en place en automne par la loi de programmation militaire. C'est une commission qui va avoir seulement un avis consultatif par rapport aux décisions du Premier ministre ou des ministres du budget, de la défense, de l'intérieur. Ça va seulement avoir un avis consultatif et une envie de contrôle des techniques. Mais derrière, le bâton pour taper sur l'État, si l'État fait n'importe quoi avec toutes ces interceptions, il n'y a pas vraiment de bâton. Ça va être le Conseil d'État qui pourra être saisi. Et derrière, le Conseil d'État rendra un avis qui sera de toute manière confidentiel, étant donné qu'on touche au secret défense.
Quentin ?
En gros, le gouvernement, il aura tout pouvoir, en fait, sur cette loi. Enfin, et même sur n'importe qui, vu que c'est le Premier ministre qui a le pouvoir, en fait.
Le gouvernement aura tout pouvoir, et derrière, il n'y aura aucun contre-pouvoir, ne serait-ce que judiciaire ou autre, par rapport à cela. Donc, si demain ça tombe entre les mains d'un État totalitaire, ou d'un mauvais président, d'un mauvais gouvernement, tout peut être fait pour vous espionner.
Dans l'état actuel des choses, est-ce qu'on peut quand même pas faire confiance à l'État pour respecter les libertés individuelles ? L'État qui travaille pour communiquer justement sur ce projet de loi de renseignement en essayant de calmer tout le monde, entre guillemets, est-ce qu'on peut pas penser quand même que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour respecter les libertés individuelles ?
On avait la même chose sous Mitterrand avec les écoutes illégales de l'Élysée, et là ça va juste être des écoutes légalisées. On se dit que le gouvernement est très bien, mais le gouvernement peut faire n'importe quoi derrière.
L'article 7 du projet de loi prévoit de réprimer notamment le fait de révéler qu'une technique de renseignement est mise en œuvre. Autrement dit, les lanceurs d'alerte à la Edward Snowden seront interdits.
Alors, l'idée, au départ, c'est les lanceurs d'alerte ont possibilité de l'être sans problème judiciaire s'ils ne révèlent pas publiquement, c'est-à-dire s'ils saisissent d'eux-mêmes la CNCTR. S'ils la saisissent, la CNCTR derrière peut vérifier, contrôler, rendre un avis qui sera de toute manière consultatif. S'il y a un problème, ils saisiront le Conseil d'État, mais personne ne l'aura jamais su. Et donc, il n'y aura jamais vraiment de réprimande derrière de ce mauvais usage des techniques de renseignement.
Le président de la République, François Hollande, a annoncé lors d'une interview télévisée qu'il soumettrait lui-même le texte de loi au Conseil constitutionnel.
Alors ça, c'est une première dans la Ve République. Le président a annoncé saisir le Conseil constitutionnel concernant cette loi, mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une saisie du Conseil constitutionnel, on peut la rendre blanche, c'est-à-dire on dit juste « Regardez cette loi, dites-moi si elle est constitutionnelle ou non par rapport à la Constitution française ». Là, nous, l'idée actuellement, hier soir, on était à 58 députés prêts à saisir le Conseil constitutionnel. C'est une saisie qui soit motivée par des arguments techniques au niveau de la loi et au niveau de la Constitution. C'est-à-dire que là, on va être dans quelque chose de beaucoup plus précis dans la saisie, et le Conseil constitutionnel va pouvoir bien mieux faire son travail que dans une saisie blanche telle que celle qui va être envoyée par le président de la République.
Et ces 58 députés, ça représente un espoir pour...
Alors, 58 députés, il nous en faut 60. Donc il nous manquait plus que deux députés selon Laure de la Raudière, une députée UMP hier soir, qui a tweeté ça hier soir.
Est-ce que le fait que le projet de loi ait été examiné, fait l'objet d'un examen accéléré, change quelque chose ?
Alors la société civile n'a pas pu se saisir, ou alors en urgence, de ce projet de loi et se prononcer sur le projet de loi en fait. Nous, à la Quadrature du Net, on a dû faire en marche forcée. On savait que ça allait arriver. On sentait venir depuis les attentats chez Charlie Hebdo qu'il allait y avoir quelque chose de ce genre. On savait que ça allait arriver, mais on n'a pas pu alerter l'opinion publique dans des conditions normales telles que peuvent le faire les personnes contre les OGM ou autres.
Enfin, là, j'ai l'impression quand même que il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait autour de ce projet de loi.
On a beaucoup de bruit, mais ça reste encore assez, comment dirais-je, assez confidentiel auprès de la population, qui se prononce, elle, majoritaire pour ce projet de renseignement, parce que personne n'a été lui expliquer. Tout le monde, on dit à tout le monde, oui, c'est très bien, ça va détruire les cellules terroristes, c'est très bien, sauf que personne n'a réellement dit aux gens qu'en fait, ça allait toucher leur vie privée, et là, personne ne serait d'accord avec ce genre de loi.
Manuel Valls, le Premier ministre, a reçu mardi dernier une pétition signée de 119 000 Français qui lui demandaient de retirer tout simplement le projet de loi. Déjà, est-ce que la Quadrature du Net fait partie des signataires? Et ensuite, qu'est-ce que vous attendez concrètement, entre nous, de cette pétition?
Alors, il y a 119 000 personnes qui ont signé cette pétition, mais il y a autre chose, il y a de nombreuses organisations, des ONG de type Reporters sans frontières, Amnesty International, l'Union des syndicats de la magistrature, le syndicat de la magistrature, deux juges antiterroristes qui sont prononcés contre cette loi. Il y a aussi des entreprises comme l'hébergeur OVH, l'hébergeur Gandhi, Alterne, enfin il y a une liste énorme de personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet. Qu'est-ce qu'on attend de...
Est-ce qu'il y a une réaction déjà depuis mardi, depuis cette remise?
Alors, il n'y a pas vraiment eu de réaction, on nous renvoie toujours vers la saisine du Conseil constitutionnel par le président de la République quand on évoque ces arguments. Derrière nous, ce que l'on attend, c'est un contrôle qui soit fait par un juge. C'est un contrôle par un juge judiciaire et non pas par une autorité administrative. Le juge, en France, est indépendant et de nature à ne pas être manipulé par le pouvoir, donc à pouvoir vérifier réellement si les techniques de renseignement sont légales ou non.
Il peut se passer quelque chose en Ambroise Terrier d'ici à mardi prochain et le passage du projet de loi devant l'Assemblée nationale.
Alors là, actuellement, on est énormément à contacter tous nos députés pour les alerter sur le sujet, pour récolter leur avis concernant le projet de loi. Là, d'ici mardi prochain, il va se passer qu'il va y avoir une montée en charge des actions contre le projet de loi. Il va y avoir une manifestation qui va avoir lieu prochainement à Paris au niveau de l'Assemblée nationale contre ce projet de loi. Si ce projet de loi est voté mardi prochain par l'Assemblée nationale, de toute manière, ça devra passer au Sénat. Et si c'est pas modifié au Sénat, ça passera par une commission mixte paritaire, hein, étant donné que c'est un projet de loi passé en urgence. Si, malgré tout, c'est voté au Sénat en commission mixte paritaire, c'est-à-dire entre certains députés de l'Assemblée nationale et certains députés du Sénat, il y aura toujours derrière la saisie du Conseil constitutionnel. Mais là, le simple fait de voter pour cette loi, c'est se prononcer contre les droits fondamentaux, c'est se prononcer contre la vie privée des gens, en fait.
Est-ce qu'il y a des politiques de gauche ou de droite qui sont contre, justement, je veux dire, par exemple, il y a les frondeurs, on parle souvent des frondeurs. Est-ce que des personnalités du gouvernement même se prononcent contre cette loi?
Alors, on a Christiane Taubira actuellement qui n'est pas très chaude pour cette loi, qui le dit ouvertement à l'international, mais qui ne peut pas le dire en France. Mmh. On a de nombreux députés, on a Isabelle Attard du groupe écologiste, on a Christian Paul du groupe socialiste, on a le député Lionel Tardy de l'UMP, Laure de la Rodière de l'UMPL aussi, nous avons l'ancienne ministre Aurélie Filippetti du Parti socialiste. Enfin, il y a peu de députés qui sont vraiment spécialisés sur ce type de questions, mais les députés qui connaissent le sujet se mobilisent.
Et de tous les partis?
De tous les partis, c'est vraiment transpartisan.
D'accord.
Premier début de réponse donc mardi à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Ambroise Terrier d'avoir été avec nous ce soir.
Mais de rien.
years ago, you'd have thought I was diseased. Girl, you wouldn't come close. Ignoring my existence like an atheist on Christmas. There must have been a shit list with my name up in big print. All caps, bold and underlined. And voodoo dolls with mad needles from behind. At least that's how it seemed, cause at times I said hi. I felt like Farside, you kept passing me by. But my oh my, it's funny how time flies. And how things change, now you're asking my name. The game people play when the fame is exposed. It's sort of like Pinocchio when his nose grows. I know where they can see it cause it's all over your face. You never had the time, now it's enough for you to waste. Thinking if you're nice you'll get a piece of the pie. But the only piece you're getting is a peace sign.
When
I'm
you
out.
Saw me, you'd ignore me. Now you want me. You say you wanna call me. When you're lonely, it's the same old story. And I heard it all before. Yeah, I heard it all before.
Yeah. She walked by like Isaac on that super fly-ish. I wanted to save her, but she played me like a sidekick. Kinda like Robin. Givens, living the high life, dodging and dipping when in my sight. I gave you a flyer, you never showed up. A flat tire, you a liar, wait, hold up. Come on, why you trying to play me? Like I'm 8-bit and it's 1980s. Fast forward, we in Greg's Mercedes. Blasting 49ers while we holler at the ladies. Did a 360 like Dominique Wilkins. Beat the heat swiftly, we just on the beach chilling. You on the line calling, wasting all my time stalling. Saying all my rhymes, drooling, analyzing all my drawings. Cause now I'm an artist and I box on the side. And we tour around the world so you can hop
when
to the
you
side.
Saw me, you'd ignore me. Now you want me. You say you wanna call me. When you're lonely, it's the same old story. And I heard it all before. Yeah, I heard it all
C'était Poule d'Our avec Heard It All Before.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est jeudi, il est 19h30, on retrouve Yann, pas très content pour sa chronique Lance-Torpille. Salut Yann.
Bonsoir. À Angers aujourd'hui, de nombreux nuages bas, le ciel est couvert et sombre et nous pisse à la gueule. La fin d'année scolaire approche pour nous, étudiants. Les longs week-ends de mai sont imminents, et tout ça me rappelle que bientôt, je ne serai plus derrière ce micro pour torpiller, car je m'en vais dans quelques semaines pour de nouvelles aventures, loin de ma chère cité angevine, de ma chère radio. Le temps va donc à mon humeur orageux.
Bon, Miss Météo, de quoi tu nous parles pas cette semaine ?
Ce soir, je ne parlerai pas de militaires violents et violeurs. Si l'on doit rendre hommage à ceux qui assurent notre protection et notre sécurité, ceci bien souvent au péril de leur vie, il faut aussi dénoncer toutes les bavures honteuses et notamment lorsque des enfants en sont les victimes. Vous n'avez pas pu y échapper, on a récemment appris que 14 militaires français ont été mis en cause pour des viols sur des enfants pendant leur mission en Centrafrique. Les détraqués s'insinuent partout, mais lorsqu'ils portent des armes, ils sont d'autant plus dangereux. L'armée ne doit plus engager n'importe qui et il faudrait qu'elle opère une sélection bien plus drastique lorsqu'elle recrute, mais comme nous sommes sur tous les fronts, elle embauche beaucoup, mais pas toujours avec discernement. La grande muette, comme on l'appelait pendant la Troisième République, ne doit pas être aveugle et se doit d'exclure tous les détraqués qui veulent la rejoindre ou qui sévissent dans ses rangs.
En forme ce soir, le torpilleur.
C'est qu'il faut dire que l'actualité me sert des plats 4 étoiles au guide Michelin en ce moment. Cette semaine, je ne vous parlerai pas de Serge Atlaoui, français condamné à mort en Indonésie et psychologiquement torturé dans le couloir de la mort d'un pays barbare qui n'est pas le sien. Répondre à la barbarie par de la barbarie officielle pour moins de barbarie, voilà une stratégie très intelligente, humaine et efficace, you know what I mean. Les pays non abolitionnistes n'ont pas encore apparemment compris comment éradiquer la violence puisqu'ils l'appliquent toujours comme sanction. Pour les non-coupables, injustement pris dans cette spirale judiciaire, rappelons qu'il est tout de même légèrement difficile de les réhabiliter après exécution. Face à certaines horreurs, on a évidemment envie de venger les pauvres victimes, mais le rôle d'une justice est de prendre du recul en s'assurant de vérifier qu'il n'y a plus aucun doute sur la culpabilité ou non d'une personne. Vouloir tuer l'autre légitimement, pour l'exemple et pour des tas de mauvaises bonnes raisons, ne doit pas nous dispenser d'aller regarder plus loin que le bout de notre nez. ayons donc une pensée pour Serge Atlaoui, qui, je le rappelle, est condamné à mort en Indonésie et clame son innocence. L'Indonésie, c'est certainement un magnifique pays, mais si notre compatriote doit être passé par les armes, j'espère que bon nombre de Français renonceront à s'y rendre, simplement pour marquer le désaccord d'un pays défenseur des droits de l'homme comme le nôtre, où la rigueur judiciaire n'est pas synonyme d'inhumanité.
De quoi tu as choisi de nous causer finalement, Yann ?
Ce soir, j'ai envie de vous parler de migrants. Ceux qui viennent en Europe en risquant leur vie pour un accueil pas vraiment des plus chaleureux, ce sont pour beaucoup des indésirables qui sont susceptibles de grignoter les miettes laissées généreusement aux plus pauvres. Alors, pour conjurer le sort des électeurs, de plus en plus votent FN par charité chrétienne, évidemment. Ajouter des barbelés aux barbelés et multiplier les contrôles d'identité peut rassurer provisoirement, mais la pauvreté, l'instabilité politique liée à des politiques basées sur la loi du plus fort pousseront toujours ces hommes, femmes et enfants à aller faire leur vie ailleurs dans un grand kit ou double. Mais circuler, on n'a rien à donner, c'est la crise, on s'occupe d'abord des nôtres. Nous, dans notre beau pays, on incite les précaires à détester les autres précaires qui viendraient leur ôter le pain de la bouche. Notre culture est bien plus conservatrice, intolérante, xénophobe, raciste que véritablement catholique. Et qui est le petit con à Rolex ou la petite conne en robe bleue qui a bourré le crâne de bon nombre de Français, redonnant par belle aux mauvais instincts, transformant ainsi un pays relativement accueillant en territoire de plus en plus hostile aux étrangers. Bien sûr, quand il s'agit des richissimes saoudiens ou de très généreux Qataris qui s'offrent, moyennant quelques bons échanges, nos clubs de foot et nos hôtels particuliers, on est beaucoup moins regardant sur la religion et on sait recevoir, par souci d'humanité sans doute, ce même sentiment chrétien qui a permis à Jean-Marie Le Pen de donner la nationalité suisse à ses lingots d'or, ceux qu'on n'a pas pour accueillir la misère du monde. C'est tout pour moi. Avant de partir, je tenais juste à vous rappeler encore une chose. Depuis plus de 650 millions d'années, les méduses survivent sans cerveau. Et ça, ça donne encore un peu d'espoir à un bon paquet de cons. Allez, à bientôt pour de nouvelles torpilles.
Merci Yann.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Demain, c'est férié, mais pas pour tout le monde. Au Joker's Pub, ce sera les Nocturnes du Bayou avec en live Scarlett et Parlor Snakes. Parlor Snakes, c'est un groupe parisien mené par Eugénie Alquézar que Quentin a eu au téléphone cet après-midi.
Bonjour Eugénie Alquézar, vous êtes la chanteuse du groupe Parlor Snakes. Vous avez sorti votre deuxième album éponyme Parlor Snakes le 16 mars dernier. Un album qui a été enregistré à New York dans le studio NYHED. Vous avez travaillé avec Matt Vertaret. Comment l'avez-vous rencontré ?
Je l'ai rencontré avec Victor il y a 4 ans. Il faisait un concert avec Heavy Trash à la Maroquinerie. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Après le concert, on a discuté. Je lui ai donné un disque, le premier single de Parlor Snakes. Et le contact est très bien passé, de manière simple et spontané, et on a nourri avec Peter ce projet d'aller enregistrer le deuxième album à New York. Et quand on s'est dit que ce serait le bon moment, on l'a contacté et il a dit ok. Il se souvenait de nous et il était partant, donc c'était chouette, c'était une belle aventure.
Qu'est-ce qui vous a apporté pour ce second album ?
Ses oreilles. Puisque c'est avant tout pour ça qu'on voulait enregistrer avec lui, c'est que c'est un musicien extrêmement talentueux, un très bon producteur aussi, un spécialiste de la bande analogique, et on voulait enregistrer notre album sur bande, en analogique. Donc il n'y avait pas de meilleur choix à nos yeux que celui de Matt Vertaret pour enregistrer cet album, étant fan de son parcours de musicien, de son travail de producteur. Donc il a apporté ses oreilles, son écoute, sa force de proposition, et puis sur certains morceaux, des idées qu'il a pu apporter.
L'ancien musicien de PJ Harvey vous a dit que vous soniez comme si Blondie avait rencontré The Gun Club. Vous vous sentez un petit côté Debbie Harry ?
Alors ça, c'est un musicien effectivement qu'on a rencontré après un show à Milan il y a maintenant 4-5 ans. Donc depuis, le groupe a tout de même évolué. On n'est plus vraiment dans ce truc du Gun Club qui était une influence particulière. Le groupe a évolué forcément en 4 ans, en faisant beaucoup de scènes, en ayant de nouveaux morceaux et tout. Il y a une évolution, c'est normal. La question, si je me sens proche de Debbie Harry, c'est ça ?
Oui.
J'aime beaucoup Debbie Harry. Après, je l'ai pas connu, donc je ne sais pas si je me sens proche d'elle, mais quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Blondie. J'aime beaucoup regarder les images de Debbie Harry. Donc après, est-ce que je me sens proche d'elle? C'est pas la même époque, c'est pas la même musique, mais je l'aime beaucoup. Ouais.
Si je me trompe pas, vous revenez du Printemps de Bourges.
Oui.
C'était comment?
Écoute, c'était assez étrange. J'étais un peu déçue, à vrai dire. Disons que c'est un moment important pour rencontrer un public, mais c'est aussi, il y a aussi un peu à côté foire à la saucisse, qui est pas forcément des plus agréables, je trouve. Après, voilà, c'est un petit peu un passage obligé. On y a passé des bons moments, mais je n'aime pas trop ce côté musique. C'est une compétition de niveau sonore, en fait. C'est à celui qui va jouer le plus fort, pas forcément de qualité, et tout ça mélangé avec beaucoup d'odeurs de saucisses, c'est pas ce que j'attendais, à vrai dire.
Donc c'est un mauvais souvenir plutôt pour vous?
Non, pas du tout, c'est un bon souvenir parce qu'on a rencontré vraiment des gens très chouettes, on a rencontré un public qui nous a appréciés. Donc ça, c'est plus important. Après, là, je te parle vraiment d'un ressenti personnel. J'en garde absolument pas un mauvais souvenir, mais j'ai été un peu déçue.
Donc, vous jouez demain au Joker's Pub à Angers, dans le cadre de la soirée Crépuscule du Bayou, à 21h45. C'est la première fois que vous venez sur Angers?
Ouais, on est très contents de venir à Angers, parce que c'est effectivement fait. Et j'ai entendu beaucoup de bien du public à Angers, donc j'espère qu'on va pas être déçus.
Est-ce que vous connaissez un petit peu la scène angevine, comme Scarlett qui joue après vous vendredi?
Alors j'ai écouté Scarlett, effectivement, et c'est vachement bien. On est très contents de jouer avec eux. Ça va être une belle affiche, effectivement.
Vous aimez l'exercice du live comme tous les concerts que vous avez fait en 10 ans maintenant?
Bien sûr, c'est le but, d'un album, d'un enregistrement, c'est de jouer les morceaux en live et de faire beaucoup de scènes. Donc c'est là qu'on se sent à notre juste valeur. On apprécie beaucoup ça. Le but, c'est de faire le plus de concerts possible dans le plus de pays possible également, de sortir de France aussi rapidement.
S'ouvrir au monde.
Oui, tout à fait. Là, on va partir en Allemagne en octobre. On va caler d'autres dates justement dans l'Est, et puis on va retourner en Italie et peut-être en Angleterre. Oui, bien sûr, le but, c'est de s'ouvrir le plus possible à l'extérieur, à l'étranger, puisque la France est un pays assez difficile en ce qui concerne le rock. La France n'a pas vraiment une culture rock en soi. Donc plus on s'ouvre à l'extérieur, mieux c'est, je pense, quand on est un groupe de rock, en tout cas français.
Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres groupes ou des envies de collaboration avec d'autres artistes?
On a envie, en tout cas, d'enregistrer le troisième album assez rapidement. Des collaborations, oui, il y a des gens avec qui on aimerait bien travailler, des gens avec qui on aimerait bien partager la scène, des gens comme John Spencer, des gens comme... Enfin, il y a des gens vraiment dont on est très très fan, pour lesquels on aimerait ouvrir. Mais ça apporte beaucoup de faire des premières parties quand on est un groupe de rock, parce que ça permet de rencontrer un public, de jouer dans de bonnes conditions, de se mettre un petit coup de pression.
De tester un peu son album aussi.
De tester son album, effectivement. Tester ses morceaux, voir quelles sont les réactions. Et puis, voilà, faire des premières parties comme celles qu'on a pu faire des Jim Jones Review ou des Bell Rays, c'est un peu un challenge parce qu'on n'est pas forcément attendu. Les gens qui aiment les Jim Jones ou les Bell Rays sont des gens assez difficile à contenter, donc moi je trouve que c'est intéressant à relever. Voilà, donc pour répondre à ta question, oui, il y a plein de projets qui arrivent et on va trouver le temps pour faire tout ça, mener tout ça au mieux.
Eh bien, merci. Merci. Pour vous voir en concert, il suffit de venir demain au Joker's Pub à 21h45. Yes.
Effectivement, demain au Joker's Pub à 21h45 avec Scarlett à l'affiche également. Petit avant-goût de Parlor Snakes avec Watch Me Live.
Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et en cette fin d'émission, on retrouve le moussaillon Quentin.
19h-20h, oh ouais. Le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Allez, on va prendre celle-là. Salut Quentin.
Bonjour. Alors, hier, la Cour de justice de l'Union européenne s'est exprimée sur la réglementation française en matière de don du sang, et en particulier pour les homosexuels. Rappelons que ces derniers ont interdiction de donner leur sang en France depuis 1983. La raison ? Les homosexuels seraient vus comme des personnes à risque qui pourraient transmettre le virus du sida. Pourtant, l'épidémiologiste et démographe à l'Institut national de veille sanitaire, Josiane Pillonnel, parle d'environ 3000 nouvelles infections d'hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes par an en France, soit environ la moitié des 6000 personnes touchées par le VIH. Il y a en comparaison 2700 hétérosexuels touchés en 2013. Le fait que les homosexuels soient catégorisés de personnes à risque n'est pas justifié au vu de la faible différence entre les homos et les hétéros. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a donc annoncé hier, à la sortie du Conseil des ministres, qu'elle réunirait les personnes concernées par la réglementation pour discuter de cette loi.
elle met en évidence, je cite, « cette discrimination qui interdit aux homosexuels de donner leur sang parce qu'ils sont homosexuels, mais en même temps qui garantissent la sécurité de tous ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de sang pour leur santé. » D'ailleurs, le 3 avril dernier, un amendement stipulant que nul ne peut être exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle avait été voté pour la loi sur la santé, ce qui avait relancé le débat sur le don du sang. Il est vrai que le risque de transmission du VIH est plus élevé chez les gays, cependant plusieurs moyens peuvent être utilisés pour prévenir cela, comme par exemple mettre en quarantaine le sang donné pendant 40 jours, le temps d'analyser efficacement si le virus du sida est présent. Ou alors, il faudrait que le donneur n'ait pas eu de relation sexuelle un nombre défini de mois précédant le don, comme c'est le cas aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou encore en Australie, où il faut une abstinence de 12 mois. Il n'est donc pas compréhensible de mettre à l'écart les hommes homosexuels qui soi-disant représentent un risque plus élevé de la transmission du VIH par rapport aux donneurs hétérosexuels, d'autant plus qu'ils peuvent déjà donner leurs organes. Rappelons que cette autorisation de don du sang avait été promise par notre président en 2012 lors de sa campagne. Madame la ministre, vous avez raison, il est temps de faire changer les choses tout en garantissant la sécurité de tous.
Merci Quentin.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est forcément du jazz en cette journée internationale du jazz. Rendez-vous au T-Rock Coco à 20h15 pour un concert de François Collet Trio suivi d'un DJ set Jazzy by Spock. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore tous les mercredis soirs. Pas de panique, vous informe sur l'actu geek Zoom sur les mèmes hier soir.
Alors l'Union 4, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un gif animé qui représente un chat avec un biscuit en guise de corps qui vole dans l'espace et avec un arc-en-ciel derrière lui.
Une biscotte.
Une biscotte, pardon, autant pour moi, une biscotte. Et rajouter à cela une musique assez répétitive, aussi répétitive qu'un jeu de Game Boy et aussi insupportable que Poudi Poudi, et vous obtenez l'un des plus gros phénomènes de l'Internet. C'est ce qu'on appelle un mème, un contenu audiovisuel ultra répandu, ultra partagé dans le web et parodié de toutes les manières possibles. Au niveau des origines de ce truc, j'ai fait quelques recherches et c'est assez flou et compliqué. Mais en tout cas, sachez que le nom Nyan Cat fait référence à l'onomatopée japonaise du miaulement. En gros, si on devait le traduire en français, ça donnerait quelque chose comme chat miaou, en fait.
Voilà. Ouais, enfin, de toute façon, tout ce qui est absurde, ça marche. Hein, YouTube. c'est ça. C'est simple, il faut le lire.
Ah ouais, grosso modo.
Ce que je sais sur l'origine,
grosso
c'est
merdo.
Que...
Grosso merdo, même.
Ce que je sais sur l'origine, c'est qu'à la base, la musique et le gif animé, donc sans musique, ne sont pas liés.
Oui. C'est vrai.
Peut-être que tu as du détail là-dessus.
Non, je voulais pas. Parce que ça aurait fait trop long si j'entrais trop dans les détails, je pensais.
D'accord. Mais ouais, en l'occurrence, le type qui a créé l'image a fait ça, genre en hommage à son chat, j'imagine.
Il voulait que ça soit mignon, je crois.
Ouais, c'est réussi. Et la musique a été créée par la suite par je ne sais pas qui, en tout cas pas par moi. Voilà.
Dans un instant dès 20h, vous retrouvez une rediff de Turbulence, l'émission Groupes Locaux de Radio Campus Angers. Cool. Merci Yann.
De rien.
Merci Yann, merci aussi à Quentin.
De rien.
Merci à Pierre pour la réalisation. Nous, on se retrouve lundi à 19h.
Que lundi ? Oh, ouais. Ça va faire long. Hein.
Ça va faire long. trois longues journées.
Ah oui, trois longues journées.
Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
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 Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.